9h11 sur Fréquence à mort. Bonjour à toutes et à tous, c'est Passage Public jusqu'à 10h avec Carole Prunetta au standard. Jean-André Djenekin et Didier Bautier sont à la technique et la programmation musicale de cette émission est signée Olivier Balbino. J'ai le plaisir de recevoir ce matin le professeur Dominique Belpomme, professeur à l'Université Paris 5, praticien à l'hôpital européen Georges Pompidou, président de l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse et expert auprès de la Commission européenne. Professeur Dominique Belpomme, bonjour.
Bonjour.
Alors, une première question, professeur. Les maladies dont nous souffrons aujourd'hui ne sont plus celles qui existaient il y a un siècle et bon nombre sont fabriquées par l'homme aujourd'hui. Bah, elles ne sont plus subies.
Ces maladies créées par l'homme, c'est, si vous voulez, ce qui m'a mis sur la piste, c'est essentiellement le modèle cancer. Aujourd'hui, il y a un cas de cancer sur quatre qui est indiscutablement lié au tabagisme. Et donc, il faut absolument, en termes de santé publique, lutter contre le tabagisme. Ça, c'est clair et net. Mais le problème se pose pour les trois cas sur quatre qui ne sont pas liés au tabagisme. Et là, si vous voulez, des arguments scientifiques de plus en plus nombreux nous laissent penser que c'est lié à la dégradation physique, chimique et biologique de notre environnement. Autrement dit à la pollution, autrement dit aux activités humaines, et c'est là tout le problème aujourd'hui. Nous avons dépassé la ligne jaune en matière de pollution environnementale, et il faut revenir à des normes de sécurité beaucoup plus vigilantes par rapport à ce qui existe aujourd'hui.
Alors des chiffres alarmants, des augmentations de maladies, notamment chez les enfants. Si je pense à l'asthme, les enfants deviennent de plus en plus asthmatiques. Je crois que c'est une augmentation de 20%, c'est ça?
Oui, je vais vous donner quelques chiffres. Oui, il y a trois particularités qui font que l'enfance est aujourd'hui en danger. Il y a d'abord le cancer. Il y a 1% en plus de cancer chaque année en Europe depuis ces 20-30 dernières années. Donc 1% de cancer en plus. Par exemple, les leucémies, si vous voulez, ça a pratiquement doublé depuis ces 20 dernières années chez l'enfant. De même, ce qu'on appelle les lymphomes, c'est les tumeurs des ganglions chez l'enfant. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si vous voulez, pour répondre à votre question plus particulière sur l'asthme, les données officielles de la Commission européenne, c'est qu'il y a un enfant sur sept qui est asthmatique en Europe. Ceci est tout de même énorme. C'était des chiffres qui étaient totalement inconnus avant la dernière guerre mondiale. Et puis, troisième point, un chiffre qui vient de tomber actuellement au niveau scientifique en ce qui concerne la France. Il y a un enfant sur 150 qui est aujourd'hui autiste. Ce qui veut dire que l'autisme, et on sait que l'autisme est lié à une intoxication mercurielle. Donc, si vous voulez, voilà des chiffres qui font qu'aujourd'hui, il ne fait pas de doute que l'enfance est en danger. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, en tant que médecin, je me suis donné pour obligation morale d'informer d'une part nos concitoyens et par ailleurs, si vous voulez, d'entreprendre une véritable mobilisation en faveur de la santé environnementale. L'enfance est en danger.
C'est ce qui vous a amené aussi à prendre la plume et à écrire.
Oui.
Avec bon nombre de parutions dont nous parlerons dans cette émission. Il y a une orientation européenne qui voudrait interdire, je crois, 30 000 substances dangereuses.
Oui.
Mais là, on s'attaque à un chiffre d'affaires et à des emplois.
Si vous voulez, c'est le règlement REACH. REACH, ça veut dire R, c'est Registration, enregistrement. E, c'est Evaluation. Autorisation, CH Chemical. Si vous voulez, c'est ce règlement européen vise à mettre de l'ordre du point de vue de la régulation de la mise sur le marché des substances chimiques. Bon, alors effectivement, nous avons mis depuis la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 50-60 ans, nous avons mis, si vous voulez, sur le marché à peu près 100 000 substances chimiques toxiques, dont un certain nombre sont CMR, C cancérigènes, M mutagènes, R reprotoxiques. Autrement dit, des substances qui sont capables d'induire des cancers, d'induire la stérilité. Et là, je fais une aparté pour vous dire que les problèmes de stérilité sont également excessivement importants, puisqu'il y a 15% de couples en Europe qui sont stériles, c'est-à-dire des couples qui veulent des enfants et qui n'en ont pas. Et on sait maintenant que c'est un certain nombre de ces substances mises sur le marché, mais aussi d'autres, notamment celles qui peuvent provenir de l'incinération, qui peuvent créer des stérilités, si vous voulez. Et donc, le règlement REACH va dans le bon sens. C'est vrai qu'il s'est heurté à un certain nombre de lobbies, notamment en provenance de l'industrie chimique, mais aujourd'hui, c'est un premier pas qui va dans le bon sens. Et notamment, il y a un point capital aujourd'hui, c'est que il y a une inversion de la charge de la preuve. Autrement dit, ce règlement qui va être applicable dans tous les pays membres de l'Union européenne, eh bien, dit tout simplement que ce n'est plus à la victime présumée de prouver que qu'une substance chimique a induit telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie chez elle. À partir de désormais, c'est l'industriel qui doit prouver que le produit ou la substance qu'il met sur le marché n'est pas toxique. Donc oui, que là, c'est une prise en compte de la défense des citoyens.
Avec des contrôles réels prévus.
Il y a des contrôles réels, c'est peut-être le point le plus faible, si vous voulez, du règlement actuellement, mais en tout cas, il va y avoir création d'une agence européenne des produits chimiques qui va tout de même renforcer le dossier d'homologation de mise sur le marché des produits chimiques. Ceci va également dans le bon sens, mais malheureusement, si vous voulez, ce qui est encore à faire, c'est que ce qu'il faut, c'est utiliser le principe de substitution le plus possible, et c'est-à-dire remplacer une substance toxique qui est sur le marché par une autre qui ne l'est pas, et ceci n'est pas encore rendu obligatoire, ce qui fait que s'il y a un premier pas qui va dans le bon sens, il y aura encore des progrès à faire pour arriver à plus de rigueur dans la mise sur le marché des substances chimiques.
Professeur Bellepomme, on pourrait penser que le monde rural soit plus épargné que le monde urbain, mais en fait, si on pense par exemple aux pesticides, il y a ceux qui les utilisent.
Tout à fait. Il y a, si vous voulez, des pollutions qui sont à peu près de même intensité que ce qu'on habite en ville ou à la campagne. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas le même type de pollution. Dans les villes, c'est essentiellement la pollution atmosphérique urbaine liée au trafic intense, voiturier notamment. Pour ce qui est des campagnes, vous avez tout à fait raison, c'est essentiellement les pesticides liés, dans la grande consommation de pesticides liés à l'agriculture intensive. Et ce que je dois dire tout de suite, puisque je m'adresse à mes compatriotes corses, si vous voulez, c'est que il est clair aujourd'hui que les îles constituent une vulnérabilité particulière en matière de pollution. Donc ça, ceci est essentiel à considérer. Je reviens de Martinique là, où le problème des pesticides est majeur. L'utilisation des pesticides a fait que, si vous voulez, il y a à peu près 25% des terres en Martinique qui sont devenues absolument stériles du fait de l'utilisation de pesticides en trop grande quantité. Il faut savoir que quand on a affaire à un petit territoire, si vous voulez, tout à fait localisé, et qu'on balance des pesticides qui sont rémanents, c'est-à-dire qui se fixent dans les argiles du sol, eh bien, le risque est de stériliser définitivement les sols. C'est pas comme sur le continent où là, si vous voulez, il y a des phénomènes de dilution qui peuvent intervenir. Et je m'adresse ici, en ce qui concerne la Corse, en disant, surtout, protégez vos sols, c'est une ressource absolument précieuse, ne contaminez pas l'eau non plus, qui est précieuse aussi, et pour cela, il faut certainement limiter l'utilisation des pesticides. Et il y a des moyens, il y a des alternatives à l'utilisation des pesticides. Il faut savoir que la France, globalement, si vous voulez, est la troisième consommatrice dans le monde de pesticides, alors qu'elle a tout de même un relativement petit territoire. Il y a véritablement un problème. D'ailleurs, les pesticides et incinérateurs, c'est le même ordre de combat. Il faut absolument éviter les pollutions, et d'autant plus qu'on est une île, donc un petit territoire qui donc ne peut pas se renouveler comme sur le continent.
Professeur Bellepomme, on vous retrouve dans quelques instants, et je rappelle aux auditeurs que le standard est ouvert s'ils veulent profiter de votre visite en Corse. 04 95 32 22 22.
Come una terra di tradizioni, operai e paesani, patrioti già nazioni, operai e paesani, patrioti già nazioni. Come un cammino in a montagna, e chi coda lo destino di l'antica speranza, come un prigioniero incatenato, e chi Johnny opera e paesane, patrioti già nazioni, opera e paesane, patrioti già nazioni.
Professeur Dominique Belpomme est l'invité de Passage Public. J'aimerais, si vous voulez bien, revenir aux pesticides, parce que j'ai lu qu'il y a à la fois les agriculteurs qui sont touchés, mais également leurs enfants.
Oui, les premières victimes, c'est la fable de l'arroseur arrosé, si vous voulez. Les premières victimes sont les enfants d'agriculteurs et eux-mêmes. Il faut savoir que le nombre de malformations congénitales, notamment de l'appareil reproducteur, si vous voulez, est en augmentation chez les enfants d'agriculteurs. À l'année, les nouveau-nés naissent avec beaucoup plus souvent avec des malformations congénitales de l'appareil reproducteur. Et ça, on sait que c'est lié directement aux pesticides. Mais il y a également, si vous voulez, des cancers plus fréquents qui ne sont pas encore mis en évidence en France, mais en Europe, les articles scientifiques commencent à le démontrer. Il y a plus de certains cancers chez les enfants d'agriculteurs, notamment des cancers du cerveau qui apparaissent beaucoup plus fréquents, et des lymphomes, c'est-à-dire ces tumeurs du ganglion. Donc ça, c'est clair aussi. Des cancers du testicule également chez les adultes jeunes, des jeunes agriculteurs qui sont en augmentation. Dans certains pays du nord de l'Europe, le nombre de cancers de testicule a été multiplié par 9, par un facteur 9 depuis ces 20 dernières années. Donc c'est pour vous dire que ce sont des chiffres qui commencent à devenir, je ne dirais pas inquiétants, mais au minimum alarmants, si vous voulez. Un énorme problème aussi, ce sont les maladies du système nerveux central. Chez les enfants d'agriculteurs, vous avez des baisses de coefficient intellectuel lorsqu'il y a une contamination par des pesticides, et ceci est démontré dans deux études américaines, notamment une étude qui a été réalisée en Californie. Et puis enfin, des maladies du système nerveux chez les adultes jeunes, maladie de Parkinson du sujet jeune, le risque est multiplié par 3, si vous voulez, chez les gens contaminés par des pesticides. Donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble, sans parler des stérilités également qui sont liées aux pesticides. Il faut savoir que dans certaines régions contaminées par les pesticides, c'est pas une étude épidémiologique qui l'a démontré, c'est 62 études au minimum qui l'ont démontré. Dans les régions qui sont contaminées par les pesticides, eh bien on a pu calculer qu'il y avait en moyenne une régression de 1% chaque année depuis ces 50 dernières années du nombre des spermatozoïdes dans le sperme des jeunes adultes. Donc avec des problèmes d'hypofécondité, voire de stérilité, comme je le disais tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il est évident que les premières victimes sont les enfants d'agriculteurs ou les agriculteurs eux-mêmes, tout en sachant même que, si vous voulez, que la contamination d'un agriculteur peut se faire non seulement par la maman qui peut être contaminée, mais par le père, puisque ces pesticides, si vous voulez, passent par le biais de la des spermatozoïdes, donc au moment de la fécondation. Donc le père contamine directement son enfant par ses propres spermatozoïdes. Donc vous voyez, ça a été démontré, pas chez l'homme, l'homme, chez la souris, mais on a toute raison de penser que c'est la même chose chez l'homme. Donc vous voyez que là, il y a toutes les raisons de penser que non seulement il faut que les agriculteurs se protègent contre lorsqu'ils pulvérisent des pesticides, mais surtout ce qu'il faut, c'est qu'on réduise la consommation de pesticides, tout simplement parce que non seulement on crée, si vous voulez, des maladies pour les autres, pour le reste de la population, parce que ces pesticides contaminent nos aliments, contaminent toute la chaîne alimentaire, puis en bout de chaîne nos aliments, et puis par ailleurs parce que ça stérilise les sols aussi. En Martinique, ce que je disais tout à l'heure, 25% des sols sont maintenant pratiquement devenus infertiles, et le problème est de savoir si c'est réversible ou pas. C'est probablement irréversible pour certains sols. Donc vous voyez que ce qui veut dire que les agriculteurs seront également victimes des pesticides qu'ils mettent dans leurs champs, tout simplement parce qu'ils finiront par avoir une terre infertile, donc il n'aura aucune valeur marchande. Donc ce qu'ils lègueront à leurs enfants ne vaudra plus rien du tout. Donc vous voyez qu'il est clair qu'il faut qu'on, en matière de consommation de pesticides, qu'on revienne, si vous voulez, à des normes de sécurité. Et ce qu'il faut, c'est bien sûr une révision complète de la politique agricole commune. C'est une des revendications, si vous voulez, des 68 experts qui ont travaillé pendant un an et demi sous l'égide de l'ARTAC, notre association, l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, et qui ont proposé 164 mesures. Et parmi ces mesures phares, il y a certainement une réforme de la politique agricole commune.
Alors, nous avons parlé des pesticides et il y a également les engrais chimiques.
Les engrais chimiques, mais tout ça c'est lié, si vous voulez. Vous savez, il y a 30 ans ou 40 ans, avant qu'on utilise ces intrants chimiques, on avait une polyculture avec des rotations qui étaient faites, avec des engrais organiques. Donc on n'avait pas besoin de pesticides à l'époque, et on avait des rendements certes un petit peu plus faibles que maintenant, mais on avait au moins des produits de qualité. Aujourd'hui, depuis que l'on a, si vous voulez, rendu la culture chimique, alors à partir du moment où on met des engrais chimiques, on est obligé de mettre des pesticides. Et c'est là tout le problème. Les pesticides sont très très toxiques. Les engrais chimiques aussi, les nitrates notamment, si vous voulez, on sait maintenant pertinemment que si les nitrates ne sont pas eux-mêmes cancérigènes, ils sont transformés par les bactéries de notre gros intestin en substances hautement cancérigènes, nitrosamine, nitrosamide, nitrite en général. Et ce qui plus est en plus, c'est que ces nitrites, on les utilise en agroalimentaire, on les retrouve dans nos aliments pour conserver nos aliments, pour éviter qu'ils s'infectent, et donc là encore on crée des risques de cancer. Donc vous voyez que en fait nous avons affaire en matière de cancérologie aujourd'hui à une pollution chimique multiple, multiforme, diffuse, avec ce qu'on appelle des effets cocktails, car ces molécules, si vous voulez, interagissent les unes avec les autres, et effectivement les pesticides sont vraiment au cœur du sujet actuel.
Est-ce que la solution c'est de choisir une nourriture bio, biologique?
Bien sûr, et c'est le bio, si vous voulez, est amené à se développer. Et là, je reviens, si vous voulez, sur le problème corse proprement dit. C'est certainement une voie d'avenir pour la Corse, qui est un petit pays, avec une polyculture possible, avec un climat merveilleux qui permet, si vous voulez, de faire des cultures qui ne peuvent pas se faire sur le continent. Et il faut jouer à tout prix au niveau économique pour l'île, si vous voulez, la carte du bio. Ceci est clair. Et bien pour cela, bien sûr, arrêter de peler l'île par des pesticides et ne pas faire l'erreur qui a été faite en Martinique, et avec cette irréversibilité de la fertilisation des sols.
Professeur Dominique Belpomme, un mot sur votre intervention d'hier soir.
Oui, ben écoutez, je tiens à remercier le collectif contre l'incinération des déchets en Corse, qui fait un travail remarquable, qui a, si vous voulez, pour objectif majeur de responsabiliser les Corses, et en disant la Corse ne nous appartient. C'est pas forcément le continent qui va nous sauver si nous continuons à polluer notre île comme nous le faisons aujourd'hui, que nous risquons de le faire demain avec l'incinérateur. Il faut que nous prenions en main notre destin, bien sûr en restant en étroit lien avec le continent, c'est clair, mais c'est notre destin de Corse sur ce rocher qui est ce magnifique, encore ce paradis terrestre qu'il nous faut préserver à tout prix. Et si vous voulez, il est clair que l'incinération, c'est ce que j'ai dit hier, il y avait d'ailleurs il y a à peu près une petite centaine de personnes lors de cette réunion, dont un certain nombre de médecins. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que les médecins se bougent, ils vont se bouger en Corse en créant un collectif, et ils vont faire exactement comme leurs confrères confrères, si vous voulez, du continent, que ce soit à Clermont-Ferrand, à Marseille, ou ces collectifs de médecins qui deviennent très très nombreux. C'est plusieurs centaines de médecins qui aujourd'hui se mobilisent dans le continent, tout simplement contre l'incinération. Car l'incinération, si vous voulez, c'est une espèce de brûlot qui est comparable à une espèce de grand cigare géant où on brûle n'importe quoi dedans. Et si vous voulez, il y a des milliers de substances qui sortent de l'incinération, des substances toxiques. Et alors les entreprises qui construisent ces incinérateurs rassurent en disant qu'il y a des filtres, mais c'est exactement la même chose que pour les cigarettes. C'est pas parce qu'on met un filtre, si vous voulez, dans une cigarette que pour cela on fera pas de cancer du poumon. Eh bien c'est exactement la même chose là. La seule chose c'est que c'est pas un incinérateur, c'est pas une cigarette, ce sont des millions de cigarettes au niveau de la pollution. C'est pour vous dire que là il y a des problèmes majeurs aujourd'hui et que les 68 experts qui ont participé à l'élaboration du mémorandum de l'appel de Paris ont mis comme priorité des priorités, si vous voulez, un moratoire pour la construction de tout nouveaux incinérateurs et en particulier également un moratoire en ce qui concerne les autorisations, toute nouvelle autorisation de co-incinération, car la co-incinération est aussi dangereuse, si ce n'est plus dangereuse que l'incinération. Donc vous voyez qu'il y a là une mobilisation du corps médical aujourd'hui et qu'il est évident que la Commission européenne se mobilise aussi et qu'aujourd'hui, vouloir construire un incinérateur, ça sera se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la Commission européenne dans les toutes prochaines années, car il est clair que l'incinération, tout azimut comme cela est proposé aujourd'hui, ne répond pas aux demandes aux données scientifiques actuelles. Et en plus, aux données économiques, car incinérer, non seulement ça crée des maladies dans les 20 kilomètres qui sont autour de l'incinérateur, en particulier des cancers, si vous voulez, je reviens sur ces lymphomes, ces tumeurs des ganglions chez l'enfant, et ceci a été absolument prouvé, mais aussi, il y a une notion économique qu'il faut respecter. Il est évident que le tri sélectif, le recyclage, la réutilisation des composants et finalement le stockage sécurisé sont des alternatives efficaces à l'incinération. Il faut savoir que, si vous voulez, la France détient le record d'Europe des incinérateurs, puisque c'est 50% des incinérateurs d'Europe qui sont en France. Donc ça veut dire que les autres pays ont trouvé des alternatives à cette incinération et que le problème franco-français d'incinérer à tout prix n'importe comment finit, si vous voulez, par être complètement ubuesque dans le panorama actuel. Donc là, non seulement la France va se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des directives européennes, mais en plus elle brade la santé de ses concitoyens, puisque on sait que, si vous voulez, il n'y a pas uniquement que les dioxines qu'ils ont à prendre en compte. On nous dit que maintenant les incinérateurs vont être aux normes pour les dioxines et que donc il n'y a plus rien à craindre. Mais c'est absolument faux. Il faut savoir, si vous voulez, que c'est la dioxine, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non seulement, même les incinérateurs qui sont dits aux normes crachent toujours d'une dioxine en quantité trop importante, mais aussi il y a des milliers de substances qu'on ne connaît pas encore, si vous voulez, et qui sont crachées par les incinérateurs. On est certain que certaines de ces substances sont toxiques pour la santé humaine et donc que ça va générer des maladies. Et d'ailleurs, il y a non seulement les cancers qui sont une possibilité autour des incinérateurs, mais également l'enfant va être encore une des victimes avec l'apparition de malformations congénitales, voire de stérilité autour de ces incinérateurs. Donc vous voyez qu'il y a des alternatives à l'incinération et que je rejoins absolument les membres du collectif contre l'incinération des déchets en Corse et je rejoins cela, mes nombreux collègues qui se battent comme moi, si vous voulez, contre l'incinération, que ce soit ici, mais que ce soit, si vous voulez, aussi en sur le continent, à Clermont-Ferrand, à Marseille ou dans d'autres villes du continent.
Professeur Dominique Bellepomme, nous ne pourrons pas parler de toutes ces maladies créées par l'homme, mais j'aimerais parler aussi de votre intervention sur les gens qui vivent à côté des aéroports.
Oui, vous êtes absolument au courant du dossier, je vous remercie, bravo. C'est vrai qu'on m'a demandé aussi, si vous voulez, de venir expertiser ce qui se passait à côté des aéroports. Il est clair que, si vous voulez, c'est surtout au décollage des avions que ça pollue, car c'est à ce moment-là qu'on consomme la plus grande quantité de kérosène, si vous voulez. Or, vous savez que là, on retombe sur les mêmes problèmes que l'incinération ou que le trafic urbain, ce sont des produits de combustion, des substances de combustion qui sont excessivement toxiques, et en particulier des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune étude, à ma connaissance, qui ait fait le recensement des risques autour des aérodromes. Ceci va commencer à se faire, je le pense. On connaissait la pollution auditive, bien sûr, avec les nuisances sonores, ça c'est clair, mais il y a certainement également des nuisances chimiques, et là, il va falloir faire des études de santé publique pour voir dans quelle mesure, si vous voulez, les aérodromes polluant l'atmosphère immédiat sont responsables de maladies. Il est évident qu'aujourd'hui, avoir des champs de céréales ou des cultures qui sont autour des aérodromes, là où les avions décollent et relâchent les produits de combustion en très grande quantité, si vous voulez, c'est polluer ces champs, donc polluer, si vous voulez, l'eau qui est dans ces champs, et c'est polluer également donc les céréales, les légumes, etc., qui sont autour, et donc polluer la chaîne alimentaire. Donc vous voyez que là, il y a encore un énorme travail à faire. Il est évident qu'il ne faut pas construire ni des incinérateurs, ni des aérodromes en bordure de culture, et ce qui est très très difficile, et surtout en bordure de maisons, c'est-à-dire près des cités. Donc vous voyez qu'il y a un énorme travail d'aménagement du territoire à faire, et malheureusement, ce que j'espère aujourd'hui, si vous voulez, c'est que je crois que le président de la République a compris, si vous voulez, l'urgence et la gravité de la situation actuelle. Je pense qu'il va y avoir, donc, comme il est dit, un Grenelle de l'environnement en octobre prochain. Il est clair que l'un des pôles va être non seulement l'énergie, la biodiversité, etc., mais va être la santé et l'environnement. Et je crois qu'il faut faire confiance à ce programme. Il sera toujours temps de juger sur les actes, car nous avons eu trop souvent des affirmations et pas suffisamment d'actes concrets. Pour l'instant, il faut laisser le bénéfice du doute à ce programme, et qui, comme il est dit, devrait déboucher sur des solutions concrètes. Attendons pour voir, mais vous savez, moi je suis un peu comme Saint Thomas, je ne mets pas en doute les bonnes volontés, mais j'attends pour voir et je juge que sur les actes.
Professeur Dominique Bellepomme, on vous retrouve tout de suite après Supertramp.
Logical, oh, responsible, practical, and
Professeur Dominique Bellepomme, puisque nous sommes à la radio, j'aimerais que nous parlions des rayonnements, télévision, téléphone portable, antenne, relais, là aussi des choses qui touchent notre organisme.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est une, si vous voulez, c'est une très bonne question. Je voudrais d'abord remettre, si vous voulez, la hiérarchie, c'est-à-dire que c'est d'abord essentiellement la pollution chimique qu'il faut contre laquelle il faut lutter actuellement. Bon, bien sûr, mais il y a les rayonnements aussi, mais dans une moindre mesure. Donc on a quelquefois trop mis sur le compte des rayonnements. Ceci étant dit, il y a des risques aussi, bien sûr. Alors, si vous voulez, pour répondre directement à votre question, il y a bien sûr parmi les rayonnements, il y a trois types de rayonnements, si vous voulez. Il y a la radioactivité, dont ça. Alors, effectivement. Alors, j'ai fait faire une thèse récemment à une Corse, à Madame ex-Fauconnier, parce qu'elle est mariée maintenant, mais je ne connais pas son nom de mariage. Bon.
Oui, dont l'époux, d'ailleurs, avait été intervenu quand le nuage de Tchernobyl.
Voilà.
S'est retrouvé aussi
alors,
la Corse.
Alors, oui. Donc, elle a fait une très très bonne étude pour la Corse. Elle a démontré qu'il y avait des cancers du corps thyroïde en nombre important. On n'a pas pu vérifier si c'était plus fréquent que sur le continent, mais en tout cas, c'est très fréquent en Corse. Bon, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'en tout cas, l'augmentation de fréquence n'est pas liée, si vous voulez, au dépistage systématique. C'est lié tout simplement au fait qu'il y a un problème de santé publique qui se pose, comme sur le continent. Alors maintenant, nous n'avons pas pu mettre en évidence de risques liés à Tchernobyl. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un effet de Tchernobyl en Corse et dans certaines parties du continent, mais ceci dit, nous n'avons pas pu le mettre en évidence. Ce que je veux dire, c'est que pour la radioactivité, il y a certainement eu un effet, mais il est probablement minime. C'est à la limite du seuil de détection. Ce qui ne veut pas dire que la radioactivité ne crée pas des cancers du corps thyroïde, puisque l'augmentation de fréquence des cancers du corps thyroïde avant Tchernobyl existait déjà. Donc, si vous voulez, il y a certainement une augmentation de fréquence de ces cancers qui est liée notamment aux explosions nucléaires que nous avons fait à ciel ouvert dans l'hémisphère nord. Il y a plus d'un millier d'explosions nucléaires. Et donc, si vous voulez, il y a une radioactivité artificielle qui est venue s'ajouter à la radioactivité naturelle et qui explique très probablement l'augmentation d'incidence des cancers du corps thyroïde. Mais Tchernobyl, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui s'est passé probablement. Alors, ça, c'est la radioactivité. Vous avez les ultraviolets solaires qui sont dont la quantité est en augmentation, quantité qui est à la peau, si vous voulez, qui pénètre notre peau, est en augmentation actuellement. Et ça, on relie ça très certainement à l'amincissement de la couche d'ozone stratosphérique, c'est-à-dire l'ozone qui se trouve à 30 km de la surface de la Terre. Vous savez qu'on pensait depuis le protocole de Montréal qu'il y avait une diminution qu'il y avait une réparation qui se faisait de cette couche d'ozone stratosphérique. J'ai vu récemment les prix Nobel, le prix Nobel américain Paul Crutzen, par exemple, qui, lui, a eu le prix Nobel pour justement cette l'ozone stratosphérique, et en particulier le fait que les chlorofluorocarbones, c'est-à-dire ces CFC, engendraient ce trou de l'ozone. Eh bien, si vous voulez, il est clair aujourd'hui que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que malheureusement, malgré le protocole de Montréal, ce trou de l'ozone ne se répare pas, et donc notre quantité d'ultraviolet qui pénètre notre peau augmente, et donc il y a des augmentations de cancer de la peau. Et d'ailleurs, pour ce qui est des mélanomes, dans certaines régions, notamment en Australie, c'est l'augmentation des cancers de la peau était multipliée par 9. En France, ça existe aussi. Il y a des cancers beaucoup plus fréquents actuellement qu'autrefois. Bon. Et puis reste, troisième point parmi les rayonnements, ce qu'on appelle les radiations électromagnétiques pulsées, c'est-à-dire tout ce qui dérive des consoles de jeux, des ordinateurs, de la télévision d'une part, des lignes à haute tension également, des antennes relais radio et puis des portables. Alors là, il y a, si vous voulez, un peu un fourre-tout, et je vais essayer de vous dire en deux phrases exactement résumées où nous en sommes au niveau scientifique actuellement. Premièrement, en ce qui concerne les lignes à haute tension et les antennes radio, il est indiscutablement démontré aujourd'hui que ça augmente par 3 à 4 le risque de leucémie, notamment chez l'enfant, lorsqu'on habite à moins de 300 mètres d'une ligne à haute tension. Ceci est absolument clairement établi au niveau scientifique. C'est d'ailleurs ce que je dis dans mon dernier bouquin. Bon. Deuxième point, en ce qui concerne les portables, il est absolument établi maintenant que si vous utilisez les portables pendant plus de 10 ans, vous avez une augmentation du risque de cancer du cerveau. Ceci est absolument démontré, non seulement d'ailleurs pour les enfants, mais particulièrement pour les enfants, mais également chez les adultes. Alors, ceci, si vous voulez, implique deux choses en matière de portable. Deux précautions, deux ou trois. Premièrement, il ne faut pas que les femmes enceintes utilisent le portable. Ça, c'est clair et net, car le fœtus, si vous voulez, est excessivement vulnérable à ces radiations électromagnétiques pulsées. Deuxièmement, il faut faire comme en Grande-Bretagne, interdire l'utilisation du portable aux enfants de moins de 12 ans, parce qu'ils sont enfants les plus vulnérables, si vous voulez, au portable, et surtout ne jamais faire que des enfants avant 3 ans, ne serait-ce que pour jouer, écoutent un portable. Ceci parce que le cerveau est encore en voie de formation et qu'il est clair qu'il est très très vulnérable à ces radiations électromagnétiques pulsées. Donc vous voyez, et puis troisièmement, il est évident que pour nous adultes, il ne s'agit pas de condamner le portable, ce serait idiot parce que on s'en sert, mais ceci dit, là encore, il faut limiter l'usage du portable au strict minimum, à ce qui est vraiment nécessaire. Si vous êtes en panne sur une autoroute dans un coin, là on peut avoir besoin de son portable pour se faire dépanner, c'est évident que là ça sert à quelque chose. S'il y a une urgence médical, le portable sert, c'est évident, mais téléphoner à son portable pour dire à son conjoint ou à une amie ou à un ami tu sais, t'as vu, il fait beau aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien, si vous voulez. Or, on utilise le portable n'importe comment. Je voyais des gens qui faisaient du vélo, qui d'une main avait une cigarette et de l'autre, ils écoutaient leur portable. Vous voyez ce que je peux dire, tout ça c'est ridicule. Vous voyez au restaurant des gens avec des portables, qui traversent les passages cloutés avec des portables, tout ça c'est complètement ridicule. Nous avons perdu les repères indispensable à une vie de bon sens et d'intelligence actuellement. Donc voilà. Donc pour nous adultes, il s'agit pas de condamner le portable, mais il faut le mettre à distance de soi, ne jamais dormir à côté de son portable ouvert et se servir d'oreillette, si vous voulez, pour écouter. Voilà ces trois points qui font que on doit, si vous voulez, éviter les ennuis liés au portable. Parce que en dehors du cancer, il y a bien sûr au niveau des portables, mais aussi de façon plus générale au niveau des ondes électromagnétiques, il y a effectivement des nausées, des signes fonctionnels, des maux de tête, etc., qui peuvent être liés à ces radiations. Voilà.
Professeur Dominique Bellepomme, nous parlions tout à l'heure de nouvelles molécules, de nouvelles chimies, d'ingrédients qui attaquent l'homme dont on ne connaît pas encore forcément la composition. Est-ce que la recherche de l'autre côté pour essayer de soigner les hommes avance à grands pas?
Si vous voulez, ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour ce qui est du cancer, quel modèle, si vous voulez, que je connais le mieux, si vous voulez, il faut savoir que les traitements ont déjà fait beaucoup de progrès, puisqu'on guérit aujourd'hui un cancer sur deux, pratiquement. Donc, si vous voulez, c'est à mettre à l'actif de la médecine, si vous voulez. Donc, il faut pas d'un côté, il faut un juste milieu, si vous voulez. C'est évident qu'il faut critiquer la pollution chimique d'un côté, mais il faut pas non plus vouloir tout critiquer, y compris la chimie telle qu'utilise la médecine. Il y a tout de même une chimie médicale qui est tout de même qui a tout de même ses vertus, et c'est grâce à elle si on sauve des vies actuellement, et en particulier si on guérit un cancer sur deux. Bon, ceci étant, il est clair que le cancer, comme d'autres maladies, constitue ce qu'on appelle en termes de santé publique des modèles durs, c'est-à-dire que les traitements n'arriveront pas à éradiquer le fléau cancer, comme on l'a fait au siècle dernier en matière de maladies infectieuses. Et maladies infectieuses, on a, si vous voulez, tout de même éradiqué beaucoup d'épidémies dans nos pays. Je sais que ça persiste au niveau du monde, ce qui implique de ne pas lever le pied et certainement d'accroître, si vous voulez, l'hygiène et la médecine dans une grande partie du monde. Mais il est évident que dans notre pays aujourd'hui, les maladies infectieuses, on en meurt encore un petit peu, mais c'est pas comparable à ce qu'il y avait encore il y a un siècle ou deux, si vous voulez. Bon, rappelons-nous que à la guerre de 14, c'est pas si vieux que ça, si vous voulez, il y a presque un siècle, mais enfin, on amputait les gens sur le champ de bataille, tout simplement pour éviter une gangrène gazeuse, parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques. Les antibiotiques ont été découverts, si vous voulez, depuis la dernière guerre seulement, donc il y a 50-60 ans qu'on connaît les antibiotiques. Ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces thérapeutiques à visée curatrice ont leurs limites. Elles vont aujourd'hui arriver à leurs limites. La médecine va arriver à ses limites, si vous voulez. On a fait des progrès en chirurgie spectaculaires. Il est peu probable qu'on fasse encore des progrès, sauf de quelques prouesses, si vous voulez, de greffes, etc., mais qui ne concerneront qu'une toute petite quantité de gens, si vous voulez, mais ça ne répondra pas aux problèmes de santé publique. Bon. La même chose, si vous voulez, au niveau de l'anesthésie, on n'arrivera pas à faire mieux. La même chose au niveau de la médecine aujourd'hui, si vous voulez, pour le cancer, il est peu probable qu'on arrive à éradiquer la maladie uniquement par les traitements curatifs. La même chose, quand vous avez une malformation à la naissance, quand un gamin a une malformation à la naissance, la médecine fait tout ce qu'elle peut dans la mesure du possible, mais malheureusement on ne pourra pas retirer toutes les malformations et donc on aura des handicapés à vie. C'est cela qu'il faut comprendre. Et donc, la seule voie alternative à ces traitements curatifs qui vont arriver à une limite dans les toutes prochaines années, qui sont déjà à la limite. Si on prend les antibiotiques, encore un autre exemple, nous avons pratiquement épuisé toutes les antibiotiques possibles que peut nous donner la nature, si vous voulez. Donc, on ne pourra pas en créer comme ça, comme on le faisait il y a 10 ou 15 ans, un nouvel antibiotique par an. Aujourd'hui, c'est un nouvel antibiotique tous les 5-7 ans, si vous voulez. Bon, et encore, c'est souvent des ressuscés d'antibiotiques déjà découverts. Bon, eh bien, Tout cela pour dire que nous sommes arrivés au maximum, étant arrivés au maximum des traitements curatifs, il faut faire appel à la prévention. Et ce que je défends aujourd'hui, c'est la prévention environnementale, car, comme je l'ai dit, si un cancer sur quatre sont liés si vous voulez, au tabagisme. Bon, et donc ça c'est le mode de vie, ça c'est nous qui devons ne plus fumer. Eh bien, il y a 3 cancers sur 4 liés à l'environnement. Et là, c'est plus uniquement un problème de citoyens, d'individus, c'est un problème de société. Et c'est là toute la difficulté. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pour faire cette prévention environnementale, ça n'est plus uniquement un problème médical, c'est devenu un problème sociétal, donc politique.
Alors nous avons André avec nous. André, bonjour. André.
Monsieur,
André, est-ce que vous pourriez baisser votre...
Et il est éteint.
Ah, il est éteint.
Il est éteint, oui, oui. Voilà, je voulais poser une question. Qu'est-ce que vous entendez par portable ouvert?
C'est quand le professeur a dit qu'il ne faut pas dormir à côté du portable ouvert.
Voilà, alors, ouvert, c'est-à-dire...
Mais c'est un portable allumé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fermé complètement.
Ah, voilà. On peut donc allumer, mais s'il y a un clapet qui ferme, est-ce qu'on peut le laisser allumer?
Ben non, parce qu'il
Émet toujours.
Il émet toujours, donc il faut mettre à distance.
Il faut l'éteindre complètement.
Voilà, absolument, il faut l'éteindre complètement.
Voilà, André.
Merci.
Bonne journée, au revoir. Une autre André. André?
Oui, André, c'est moi.
Ben oui, mais il y avait 2 André. Vous étiez
d'accord.
2, voilà.
Alors moi, par contre, justement,
On vous entend plus, André.
Allô?
Oui.
Oui. Je disais, parler de portable, mais oui. Des radios réveil.
Non, à ma connaissance, non. Mais toute radio allumée émet aussi. Mais enfin, il vaut mieux vaut mieux mettre à distance de soi là aussi.
Ah, il vaut mieux quand même le mettre à distance. Oui, à peu près de combien?
Ça, je ne peux pas vous dire. Enfin, ils ont plusieurs mètres.
D'accord. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Vous aussi, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Professeur Dominique Bellepomme, une étape en Corse. Nous avons Jean-Louis aussi qui est là. Jean-Louis.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je voudrais savoir, moi, ce que pense le professeur au sujet des vaccins.
Alors, c'est une question très importante. Il y a du bon et du mauvais, si vous voulez. Alors, le mauvais, tout de suite, c'est-à-dire qu'on fait un abus trop large des vaccins et que certains contiennent notamment du thimérosal, qui est du mercure. Et on sait que ça peut être lié, si vous voulez, que le mercure est vraiment toxique. Donc, il faut retirer le thimérosal des vaccins, ça c'est certain. Bon. Alors, il y a des vaccins qu'il ne faut pas généraliser et rendre obligatoires. L'erreur a été d'essayer de rendre obligatoire, si vous voulez, le vaccin contre l'hépatite B, par exemple. Il fallait ici le restreindre à des personnes qui sont exposées, telles que les infirmières par exemple, ou les médecins qui travaillent dans les unités de réanimation, d'hémodialyse ou autres, etc., ou les chirurgiens, mais pas généraliser cela, car indiscutablement un certain nombre de vaccins peuvent donner des complications. Il faut toujours faire, si vous voulez, une analyse entre le bénéfice, ce que nous on risque d'en retirer, et puis les risques. Alors par contre, si vous voulez, il y a des extrémistes qui disent on va supprimer tous les vaccins maintenant, ça ne sert à rien. Et là, je m'y oppose fermement. Il y a un certain nombre de vaccins qu'il faut conserver, mais les faire à bon escient, pas les multiplier, mais un certain nombre de vaccins qu'il faut conserver, tout simplement car si nous les retirons, nous risquons de récupérer les maladies du siècle dernier que nous avons vaincues. Je voudrais tout simplement vous donner un chiffre. Il y a 17 à 19 millions de morts par an dans le monde de tuberculose. Donc la tuberculose est une maladie réémergente. Le sida y est probablement pour quelque chose, parce que ça, en déprimant les défenses immunitaires, vous favorisez le développement du bacille de corps. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ces maladies infectieuses, nous ne les avons pas vaincues définitivement. Elles sont là, prêtes à ressurgir. Il ne faut pas lever le pied de l'accélérateur. Ce serait une erreur profonde. Et si vous voulez, la vaccination, avec l'hygiène, avec les antibiotiques, font partie des moyens de lutte contre les maladies infectieuses. Donc il ne faut pas se retirer des armes comme ça, comme on a trop tendance à le faire, y compris certains scientifiques aujourd'hui. Je pense qu'il y a un certain nombre de vaccins qu'il faut absolument conserver.
Mais voilà, Jean-Louis.
Est-ce que par exemple, le vaccin de la tuberculose, ça n'empêche pas d'avoir la tuberculose aussi? On a eu des faits bien précis.
Je pense que si vous voulez, si y a eu de tels cas, cela veut dire que il n'y a pas eu les vaccins de rappel, si vous voulez. Le BCG est tout de même vraiment a été démontré, protégé contre la tuberculose. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut tout de même conserver la vaccination par le BCG. Aux États-Unis, si vous voulez, il est clair que tout le monde, le vaccin n'est pas obligatoire, mais un certain nombre de gens, si vous voulez, prédisposés, qui vivent par exemple dans des conditions un peu difficiles, eh bien, pour cela, on conseille la vaccination par le BCG. En France, il y a un certain nombre de gens gens qui voudraient supprimer, y compris certains scientifiques qui voudraient supprimer totalement le BCG, ces jeunes chercheurs, je les mets en garde, car ils ne se rappellent pas, ils n'ont pas fait le travail de mémoire, et il faut se rappeler ce qu'était le 19e siècle et la tuberculose, avec des gens qui mouraient partout. Il ne faut pas que nous revenions là. Je le répète, il faut encore vacciner un certain nombre de nos concitoyens.
Donc vous, qu'est-ce que vous me conseillez comme vaccin pour un enfant ?
Eh bien, les vaccins classiques, tétanos, le polio, bien sûr, certainement, le BCG aussi, voilà, diphtérie, tétanos, le DTAB et le BCG, voilà.
Jean-Louis, on va être obligé de vous laisser. Bonne journée.
De
professeur
même.
Dominique Belpomme, merci,
merci
d'avoir été notre invité dans Passage Public. Bon séjour en Corse et une prochaine étape pour informer les gens.
Oui, si vous voulez, il faut. Enfin, ma conclusion, c'est conserver ce paradis terrestre. C'est une île qui porte bien son nom, c'est l'île de beauté. Nous autres du continent, eh bien, nous avons toujours un regard, si vous voulez, vers la Corse. Mais je le répète encore, le regard des continentaux n'est pas suffisant, si vous voulez, parce que les continentaux voient la Corse comme une île de beauté, comme un lieu de plaisir, de vacances, etc. Il faut absolument que les Corses prennent en main leur destin, si vous voulez, et qu'ils n'attendent pas trop des continentaux. Cette responsabilité en matière de pollution est essentielle, et c'est pour cela que je rejoins le combat contre l'incinération en Corse.